94 ml dans la région, 104 sur Niort et le Niortais, partout dans le monde sur internet. Vous écoutez les 4 best-sellers du magazine et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Léaumont, comédienne et directrice artistique auprès de la compagnie du Mauvais Genre. Bonjour.
Bonjour.
Et Lydie Guézangar, présidente de la compagnie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, avant de parler du spectacle que vous venez nous présenter, parlez-nous un peu de la compagnie du Mauvais Genre.
Maintenant qu'on a dit partout dans le monde, ça va être facile.
Alors, la compagnie du Mauvais Genre, c'est une compagnie qui est installée sur Niort depuis pratiquement 10 ans, création en 2014. Et on travaille sur trois grands volets artistiques, on va dire. On a bien sûr la création artistique qui est le plus visible. Voilà, et puis on travaille aussi sur du théâtre forum auprès de la jeunesse et sur des projets d'éducation artistique et culturelle. Voilà, c'est nos trois grands volets d'action la plupart du temps.
Quand, oui. Ah non, je croyais que vous vouliez dire quelque chose. Quand vous êtes lancé dans cette aventure, vous aviez déjà, alors Marie, un bagage d'artiste.
Oui, tout à fait. Alors moi, je viens du conservatoire de Poitiers. Et la compagnie du Mauvais Genre, à la base, elle s'est créée avec deux de mes collègues du conservatoire. En fait, on avait créé la compagnie du Mauvais Genre à trois. Aujourd'hui, ils sont partis sur d'autres aventures. Moi, je la dirige seule en tant qu'artiste. Après, aujourd'hui, voilà, moi, je suis très contente que Lydie ait rejoint l'aventure en tant que présidente. Voilà, aujourd'hui, la compagnie, elle fonctionne vraiment à deux têtes. Et voilà, ça marche très bien.
Oui, ça marche très bien.
Lydie, vous avez aussi une expérience théâtrale ou vous avez rejoint la compagnie par passion ?
Alors, par passion, mon expérience théâtrale, elle est amateur. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Marie, en fait, parce qu'elle jouait dans une pièce qui était mise en scène par Frédéric Anthelme à Cap Sud. Et je faisais partie de l'atelier théâtre amateur de Frédéric. Et puis, de fil en aiguille, comme je suis photographe de profession, j'ai été amenée à travailler en tant que telle sur différents projets. Et je me suis un peu plus engagée au fil du temps. Pour finir, présidente.
Présidente, ça veut dire que donc la compagnie, c'est une association ?
Oui, tout à fait. Elle fonctionne comme une association.
D'accord. Donc, vous avez donc rejoint cette aventure. Pour une compagnie qu'on pourrait qualifier d'engagée ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, la compagnie du Mauvais Genre, elle est plutôt connue en termes d'engagement sur ses engagements féministes, parce que moi j'ai rencontré le féministe très très jeune et effectivement c'était totalement inconcevable pour moi d'enlever ces valeurs de mon travail artistique, d'autant que maintenant on en parle, c'est vrai que maintenant il y a plein de projets qui abordent l'égalité femmes-hommes dans l'artistique. Moi quand j'ai démarré mon travail de comédienne, c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup et pourtant le théâtre s'y prête fabuleusement bien, vraiment.
Il y a beaucoup de pièces.
Oui, beaucoup de pièces, de manière historique. C'est des sujets qui ont toujours traversé le théâtre. Et aujourd'hui, on les aborde bien sûr différemment qu'à l'époque. C'est des sujets qui ont toujours fait partie du théâtre. Voilà.
Et vous avez été, comme beaucoup d'artistes, tous les artistes même, stigmatisés un peu pendant la crise du Covid.
Oui, effectivement, en fait on est là pour parler de la création de Presque égal A, donc une pièce de Jonas Hassen-Kemery. Et Presque égal A, la création qu'on fait, c'est clairement l'aboutissement de cette réflexion. Moi je suis, pendant le Covid, je pense comme... tout le monde pris comme un lapin dans les phares, voilà, à qui on dit que le théâtre n'est pas essentiel, où on ferme les boutiques, on ferme l'accès aux livres, on ferme l'accès au théâtre. Et d'un seul coup, on nous dit, vous arrêtez de travailler, on n'a pas besoin de vous, en pleine crise de société. C'est-à-dire à un moment où on se dit, justement, il faut aller faire appel aux artistes, parce que la population, elle est dans une telle crise anxiogène qu'au contraire, faisons appel aux artistes pour calmer tout ça, réfléchir les choses plus posément, ou en tout cas d'une autre manière. Et non, au contraire, on dit stop, vous arrêtez tout. Donc, comment on se remet au travail après ça ? Et moi j'ai fait le choix en tout cas de lire énormément de pièces de théâtre parce que je cherchais quelque chose qui aborde ça d'une manière politique. Et j'ai découvert la pièce de Jonas Hassen-Kemeri. Moi, il se trouve que c'est un auteur que j'avais déjà rencontré à travers une autre pièce. Et quand j'ai lu Presque égal, j'ai dit, bah oui, bien sûr, c'est évident, c'est la réponse, quoi. Donc, ça, c'est moi, mon rapport à l'écriture de Jonas Hassen-Kemeri. Après, il y a eu toute une réflexion où là, on s'est mis en réel travail intellectuel à la table avec mon équipe, où on s'est dit, bah voilà, maintenant, comment nous, on réfléchit nos métiers différemment, comment on réinvestit le processus de création, qu'est-ce qu'on raconte à travers nos métiers, comment en fait on refait théâtre. Voilà, et ça a vraiment été au cœur de la création, et aujourd'hui, la pièce qui va être jouée là très prochainement, elle est clairement empreinte de cette réflexion.
Alors, le point de départ de cette pièce, quand elle a été écrite, c'était une commande ?
Oui, tout à fait. Alors, Presque égal. Alors, ce n'est pas la compagnie qui a fait la commande. Jonas Hassen-Kemeri, c'est un auteur suédois qui commence à être assez célèbre pour ses écrits de théâtre. Et il participe à un concours d'écriture où le sujet, c'est le monstre de Frankenstein. Et effectivement, lui, en tant qu'auteur, réfléchit, se dit quel monstre on a créé qui nous a totalement échappé, et il crée une pièce qui raconte le capitalisme, le libéralisme. Donc, c'est une langue éminemment politique, ce qu'il raconte. Moi, je la synthétise en disant qu'il nous parle de comment le libéralisme, cette société-là, économiquement, comment elle est construite dans ses valeurs d'argent, nous empêche de rêver et broie nos rêves. Voilà. Et vraiment, on suit quatre personnages principaux dans cette pièce qui ont tous un idéal de vie très fort et qui se font broyer. Et donc, c'est comment on laisse un peu de soi à chaque concession, quoi. Et qu'est-ce qui reste à la fin quand on a fait toutes ces concessions, quoi. Est-ce que c'est toujours le même rêve? Est-ce que c'est toujours nos valeurs? Voilà, ça raconte tout ça. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans cette pièce.
Oui, parce qu'au fond, donner un sens à la vie, la philosophie a donné un petit peu la réponse aujourd'hui. On sait que le sens de la vie, c'est un peu la mort. Et quand on se bat tous les jours pour éviter la mort, avec le travail, avec cette nécessité, on peut à un moment donné se poser la question, mais j'ai fait toutes ces concessions, et après le Covid aussi, il y a des questions majeures qui se sont imposées aux personnes. Quelle valeur je choisis ? Pour donner un sens, ça passe d'abord par des valeurs. Est-ce que c'est des valeurs de profit, de spéculation, de financiarisation de la santé, de l'éducation, de la culture? Ou est-ce que c'est la valeur des ressources naturelles que l'on partage?
Ça aborde tout ça.
Non, mais c'est vrai que, il fallait que vous puissiez vous relever après la claque que vous avez prise pendant le Covid.
Tout à fait.
J'imagine que ça n'a pas été facile. Après, peut-être quand on est militant et engagé, peut-être que du coup, on a plus de facultés
à rebondir.
L'esprit combatif, il est là.
Oui, peut-être. Ça, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je voulais de toute façon me relever, mais pas dans les mêmes concessions. C'est-à-dire de dire, stop. Là, on est allé trop loin. Donc, soit on se remet en création, mais dans une proposition forte et radicale, soit il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de... En tout cas, moi, je n'y trouve plus de sens. Voilà. Dans mon métier, si c'est pour refaire les mêmes concessions qu'avant, c'est-à-dire on se remet au travail comme s'il ne s'était rien passé, et surtout on ne remet absolument rien en question, ça ne m'intéresse pas et il n'y a pas de sens. Voilà, je n'y trouve plus de sens, je n'ai pas d'intérêt à continuer à faire mon travail de comédienne. En revanche, de dire « Ok, on re-réfléchit tout et on propose quelque chose d'ambitieux, de fort, de courageux, qui résonne plus avec le cœur qu'avec autre chose. » Moi, je suis persuadée que ce spectacle, il y a une... je pense y avoir mis beaucoup de moi. Je pense que c'est le spectacle qui me ressemble le plus aujourd'hui. Voilà.
Le côté positif de la crise sanitaire, c'est que ça a clarifié les choses. C'est-à-dire, la culture, c'est politique. Donc, ok. Soyons politiques, donc comment on fait maintenant? Est-ce qu'on continue à monter sur scène, à être à 10 mètres du public qui a plus ou moins les moyens de se payer une place? Ou est-ce qu'on va voir le public directement là où il est, là où il travaille, là où il se débat tous les jours et qu'on vient avec lui raconter, partager et puis se poser des questions. Se poser juste aussi.
Et justement, c'est tout l'enjeu de cette pièce puisque c'est un spectacle que vous qualifiez de tout terrain.
Oui.
Et que vous allez justement le jouer les 22 et 23 septembre à 19h dans la Syrie Archimbaud.
Oui. Donc ça, c'est une vraie rencontre avec la Syrie. Et, moi, je les remercierai jamais assez de nous accueillir comme ils l'ont fait, parce que ça prend tout son sens que pour cette première, l'écrin de la première, ce soit un lieu de travail, en plus du bois, donc nous qui résonne très fort avec le dispositif scénique, la scénographie qu'on a inventée. Donc vraiment, ça a beaucoup de sens et là, en plus, on est au contact des ouvriers de la Syrie. Donc après, on a ouvert au grand public pour mixer les publics, parce que je pense que c'est important que justement, ça soit aussi un lieu de rencontre. Voilà, mais c'est vrai que ça prend tout son sens.
Donc vous avez rencontré les gens de la Syrie Archimbaud pour pouvoir... pour pouvoir trouver une structure qui puisse vous accueillir aussi.
Oui.
Et qui puisse accueillir du public.
Oui, en fait, moi, je n'ai rencontré que la Syrie. Je ne suis pas allée à la pêche voilà, aux mécènes, ce qui n'était pas intéressant dans la démarche. Ce n'était pas notre démarche. C'était vraiment de trouver un lieu de travail qui souhaite nous accompagner dans cette démarche-là. Et la Syrie a répondu présente tout de suite. Ils ont reconnu... le côté innovant de la démarche, l'originalité de cette démarche. Alors aujourd'hui, on parle d'originalité et d'innovation, mais en fait, c'est un vieux remède. Oui. Hein, avant, les gens, il y a eu une époque où, voilà, où les gens de théâtre allaient jouer dans les usines. Voilà, hein, donc on a rien inventé. Hein. Voilà.
Non, mais vous recassez les codes, finalement.
On recasse les codes et je crois que la démarche, elle est assez forte et radicale pour que ça fasse sens, encore une fois. Ouais. Oui, oui, tout à fait.
Et comme le disait Lydie, c'est une démarche politique.
Oui. Oui, politique et pragmatique aussi, parce que maintenant, on va dans une économie de faire soi-même, faire avec des bouts de bois, faire avec les gens et aller à la rencontre des gens.
C'est important aujourd'hui aussi, on est dans une société où quand même on essaye de niveler par le bas la culture, etc. C'est important d'apporter autre chose.
Oui, moi j'en suis persuadée. Et puis on est aussi dans je veux dire, le théâtre, on n'y échappe pas. Hein. On est aussi dans une société du paraître, voilà, où on a peu l'occasion de prendre le temps de s'interroger sur le fond des choses. Là, en l'occurrence, on n'est pas sur du paraître. Voilà, on vient jouer dans la Syrie, on transpire et en plus on est au contact vraiment du public, c'est-à-dire que le dispositif scénique, il est hyper simple. Alors il est pensé, hein, il y a un vrai travail avec un scénographe qui s'appelle Vincent Debat, nous qui nous suit à la compagnie depuis plusieurs créations, voilà, donc il y a une vraie réflexion autour de cette scénographie. Oui, enfin, c'est une scénographie totalement épurée, oui. Quoi, voilà. Mais elle est réellement pensée et on est vraiment au contact. Le public est assis à côté des comédiens, quoi. On partage la même assise. Il n'y a pas de scène. C'est l'espace. L'espace scénique devient aussi l'espace des spectateurs. C'est pour autant pas un spectacle participatif. Hein, on ne va pas piéger entre guillemets les spectateurs en leur demandant de jouer une partition, etc. Voilà, c'est pas de cet ordre-là. On leur demande pas de nous répondre. En revanche, l'adresse, elle est directe. On s'adresse réellement au public et on est côte à côte, quoi. Voilà, il n'y a pas d'espace du comédien ou de l'espace du public, quoi.
Oui, c'est pas un jeu frontal.
Oui.
C'est un décor circulaire. Mmh. Alors, c'est un petit peu moins confortable que des sièges en velours et voilà, un théâtre classique. Mais en même temps, ça met en situation un public et ça favorise une écoute active et ça favorise un lien avec des personnages auxquels on s'attache tout de suite parce qu'on s'y reconnaît immédiatement.
Je vous propose qu'on en reparle après, une pause que oui. Vous avez choisie. Donc il s'agit d'un artiste que l'on passe sur D4B, donc les auditeurs de D4B ont déjà entendu, Cyril Mokayesh, et le titre c'est « Communiste ».
We'll be right back. mondialiser l'injustice, s'en asperger de bénéfices, ça les perdra. De coucouner le patronat, de boucliériser l'élite, qui t'embauche pas, mais qui profite de ces villas. La, la, Ibiza, c'est fantastique, un bain de minuit dans le capital, pendant que ta manne aux ascédiques et moi. De ratiboiser la culture pour te ramollir, toi qui taffes dur et te traîner à l'usine de Cholet sur des machines à licencier, mais moi. Ça les perdra de nous distraire, à vouloir tout repeindre en vert, à part l'Afrique. Pour ça la crise, c'est bien pratique. Je suis communiste à ce qui paraît, rien d'héroïque, oui, mais je suis communiste. À peu près, à bout d'airiste, tu te doutais, je suis jeune branleuriste, ok, fils d'avocatiste, libanais, je suis Che Guevariste, s'il te plaît.
Cyril Mokayesh sur les ondes de D4B, vous êtes de retour sur le magazine. Je suis en compagnie de Marie Léaumont et Lydie Guézangar, qui est présidente, Lydie, de la Compagnie du Mauvais Genre. Tout et fait. Marie, comédienne et directrice artistique. Vous venez nous présenter la dernière création, Presque égale à, que vous allez jouer, donc, on le disait juste avant la pause, au sein de la série Archimbaud. C'est la première, là.
Oui, oui. C'est la première. Donc, il y a deux soirs, en fait, le 22 et 23 septembre. Ça joue à 19h. Donc, c'est vraiment au sein de la série, hein, en extérieur. Et voilà, c'est pratiquement complet le vendredi soir. Donc, maintenant, on invite plutôt les gens à réserver sur le samedi. Faut venir avec un petit parapluie au cas où, et puis une petite laine, voilà, parce qu'on joue dehors, donc il fait nuit à 20h30, voilà.
Vous vous êtes déjà emparé des lieux? Vous avez déjà
On a déjà eu un rendez-vous avec la série, oui, pour commencer à organiser la logistique. Mais on commence une résidence à la Maison des Arts de Brioux à partir de mardi prochain, avec un début de répétition. Ouais. Et ensuite, on déménage le décor le jeudi sur la série. Et on commence à flécher, à mettre des barrières partout et à préparer l'événement exceptionnel.
Mais c'est vrai que c'est pour l'instant, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que les gens n'ont pas l'habitude. Mais il faut souhaiter que ça devienne quelque chose de plus régulier, de quelque chose qui vienne naturellement, finalement. Vous parliez tout à l'heure, Lydie, des gens qui n'ont pas forcément les moyens de venir dans un théâtre traditionnel, avec c'est un peu guindé, c'est un peu...
Oui, tout à fait.
Vous parliez des chaises, des sièges en velours. Alors certes, c'est caricaturé. Il y en a, oui, certains qui sont un peu plus simples, mais effectivement, théâtres parisiens, par exemple...
Oui, et puis c'est un peu l'idée, notamment qu'à la jeune génération du théâtre, quelque chose assez poussiéreux, Et je pense qu'il faut aider à changer ces idées reçues et changer de format, permettre à un théâtre nomade et responsif, comme les sites web. Ça va aider aussi à un public. On parle d'eux, on parle du travail, on parle des gens qui n'ont plus les moyens, qui se débattent, et en même temps, c'est joué par des comédiens qui n'ont plus les moyens, qui se débattent aussi. Et on offre ça à qui ? À des gens qui auraient les moyens, eux, de s'acheter des places dans des théâtres dorés. Non, c'est pas cohérent. Donc, on a repensé ça. C'est pour ça qu'on a cette démarche d'aller vers plutôt que d'attendre.
Vous êtes quatre comédiens sur la scène. Il y a aussi une logistique avec des techniciens.
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'on est quatre au plateau, deux comédiens, deux comédiennes. C'est paritaire, c'est important pour la compagnie. Et après, c'est une équipe de 7 ou 8 personnes parce qu'effectivement, on a donc la metteur en scène, Frédéric Antelme. On a le scénographe qui a accompagné le projet et qui va continuer à l'accompagner en tout cas sur les premières dates de diffusion, j'imagine, donc qui s'appelle Vincent Debat. On a notre régisseur plateau, qui est un vrai magicien. Voilà, donc merci à la voix. Donc c'est à la voix chez Tab. Et puis il y a Lydie, qui bien sûr est présidente de la compagnie, mais qui a accompagné le projet aussi en termes de communication et qui a fait un travail de titan sur tout l'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, on n'y échappe pas, hein, ce travail-là. Donc, voilà. Donc, et puis, tu as mis en photo.
Oui, il y a une archive qui a été créée de la création en images et en petite vidéo aussi. Donc, il y a un site web qui existe, en plus du site de la compagnie, et qui expose les différentes étapes. C'est ça aussi qui peut être intéressant, c'est d'aller voir les images des premières résidences qui se sont passées en Bourgogne, en Charente, etc. Et ensuite d'aller voir à la Syrie, eh bien, qu'est-ce que tout ce travail a pu
Parce qu'effectivement, vu qu'on était dans cette démarche-là de réinterroger le processus de création, on a voulu réellement le rendre vraiment dans une réelle honnêteté, le rendre totalement transparent, que ce soit auprès du public, mais également auprès des professionnels des théâtres qui pourraient éventuellement nous programmer ou être intéressés par le spectacle. Bon, il se trouve que malheureusement, ça n'a pas été très suivi, mais nous, on a réellement fait cette démarche pour la rendre visible. Voilà.
D'autant plus que c'est quelque chose qui est encore... les gens voient les choses abouties. Alors maintenant, il y a certaines salles qui reçoivent des artistes en résidence qui font une sortie de résidence.
Oui.
Et après, une fois que le spectacle est ficelé, on va dire, les mêmes spectateurs peuvent revoir. Mais c'est vrai que voir le processus, c'est quelque chose de quand même assez peu commun, on va dire.
Oui, en tout cas, qui faisait partie de cette interrogation de comment on réfléchit nos métiers, comment on les enlève de cette tour d'ivoire, et qui crée en plus beaucoup de fantasmes.
Bien sûr.
Des gens qui ne font pas du tout partie de cette profession. Il y a beaucoup de fantasmes autour de la profession de comédien, de comédienne, du théâtre.
Mais oui, non, mais on citera personne, mais c'est vrai qu'il y a la façade, il y a les paillettes, il y a ce qui est montré sur certaines chaînes de télévision, et on citera encore une fois personne, mais voilà. Et après, vous êtes tous intermittents du spectacle, vous êtes 7, donc 8, vous disiez, Marie,
oui.
8 intermittents du spectacle, mais ça veut dire qu'il faut que vous mangiez aussi et que vous puissiez vivre de votre art.
Oui, dans le contexte actuel de la politique culturelle qui est menée. Donc, effectivement, moi, si je veux être très claire, c'est une création qui a été payée grâce notamment aux aides post-Covid. Mais c'est les seuls financements publics qu'on a eu pour créer le spectacle. Donc, moi, j'ai une super équipe qui a accepté d'être sur le jusqu'au boutisme, c'est-à-dire de ne pas lâcher le projet parce qu'il n'y avait plus de quoi nous faire de salaire, en se disant on croit à ce projet et on va aller jusqu'au bout parce que la démarche, encore une fois, est pertinente, est intéressante. Et clairement, moi, c'est une équipe de comédiens engagés que j'ai réunis.
Et puis le concept de transparence, il va faire son chemin parce que notre précarité est... ce désir d'autonomie aussi et de liberté de parole, je pense, va nous amener vers des moyens de financement participatifs. Mmh. Et on en parlera, il faudra suivre l'actualité, mais c'est en cours de réflexion et de construction.
Mmh. Et puis, il faut se dire aussi que si on n'a plus d'artistes, si on n'a plus d'écrivains, après, on va supprimer quoi c'est, non, mais on,
oui.
C'est une société qui décline quand on commence à retirer tout ce qui est culturel.
Oui. Oui, oui, puis c'est clairement une société mortifère. Hein. Il faut s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire réellement une société sans artistes. C'est une société mortifère. À un moment, la création, ça reste la vie. Hein. C'est voilà. Alors certes, on ne sauve personne. On sauve pas des vies. On n'est pas en train de soigner des gens. Hein. Relativisons. Non, j'arrive pas à le dire.
Oui, relativisons.
mais ça reste essentiel. C'est essentiel.
Et puis, il y a des gens qui vont être touchés aussi. Donc, parmi ces gens-là, il y en a peut-être que vous allez sauver.
Mais le cerveau est fait naturellement pour inventer des choses.
Bien sûr.
Donc, ce serait contre nature d'éliminer le théâtre. Et puis quoi après, le chocolat
Ah non, hein.
Presque égale à donc, cette pièce, vous allez donc la présenter, vous le disiez, les 22 et 23 septembre à la Scierie Archambault. Et après ?
Et après, on a une date en préachat qui nous renvoie au 16 mai à Saint-Mexant-l'École, où on avait fait une sortie de résidence au mois de juin. Donc, la mairie et le service culturel nous ont soutenus sur ce préachat et ils sont très contents de nous accueillir. Et là, on joue pareil dans un lieu magnifique qui est dans le cloître de l'abbaye. Alors, ça résonne complètement différemment que dans la Scierie, mais ça prend aussi beaucoup de sens. Et pour l'instant, on a des lieux magnifiques hein, pour la sortie du spectacle. Donc voilà. Après, tu le disais tout à l'heure, c'est un spectacle tout terrain. Et moi, je tiens réellement à souligner cette chose-là, c'est-à-dire que pour moi, il était essentiel de créer un spectacle qui puisse jouer partout et dans toutes les conditions.
On peut jouer sur un terrain de foot, sur un parking.
À la sortie d'un magasin.
Tout à fait.
Ça marche. C'est quelque chose qui peut. Alors évidemment, il faut quand même que les spectateurs.
Oui.
Soit là d'un bout à l'autre quand même.
Oui, tout à fait. C'est pas un spectacle qu'on peut donner comme un spectacle de rue. Voilà, il peut être joué dans la rue, mais pas dans les conditions d'un spectacle de rue. C'est-à-dire, on n'a pas la même accroche que les spectacles qui peuvent alpaguer gens, où les gens prennent un petit peu, puis s'en vont, reviennent. Bon, ça marche pas. Effectivement, ça reste un texte d'un auteur contemporain, avec une réelle progression dramaturgique. Donc, effectivement, si on n'en prend qu'un bout, il n'y a pas de sens. Il faut être là du début jusqu'à la fin.
Après, comme vous le disiez, les gens répondent plutôt favorablement, puisque, alors certes, il y a une petite jauge, puisque l'espace n'est pas extensible, mais en l'occurrence, les gens répondent.
Oui, la soirée du vendredi soir, elle est pratiquement complète.
Oui.
Donc là, on est en train de remplir celle du samedi soir. Non, on est hyper contente. Voilà, ça, c'est super.
Et vous avez déjà rencontré les personnes qui travaillaient au sein de la Scierie ou pas encore ?
On a rencontré les personnes qui sont responsables d'organiser avec nous l'événement. On a croisé quelques techniciens, mais la vraie rencontre avec les ouvriers se fera à partir de jeudi, je pense.
Donc là, vous allez pouvoir en plus vous nourrir de tout ça ?
Oui, et puis il y a un caractère assez exceptionnel parce qu'en fait, la Scierie, elle fonctionne tout le temps. Et là, exceptionnellement, ils arrêtent la production. C'est un caractère très exceptionnel. Après, la Scierie, c'est, je crois, la première fois qu'ils le font. Donc, c'est une vraie aventure qu'on. Et puis, c'est deux mondes qui se rencontrent aussi. C'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça passionnant. Alors, ça demande par moment de se mettre d'accord sur des choses parce qu'on ne se comprend pas tout le temps. Mais c'est passionnant parce que, c'est deux mondes qui se rencontrent et ça rend des choses possibles. Non, mais je trouve ça hyper bien.
Comme quoi, le monde de l'entreprise et le monde artistique peuvent tout à fait faire le chemin ensemble. Il n'y a pas besoin de les opposer.
Non.
Ben non, il suffit de... Quand le désir est là...
De toute façon, c'est nous, on va être obligés en tant qu'artistes de se réinterroger sur un peu nos métiers. Hein. On va, par rapport à la politique culturelle, au fait qu'il y ait de moins en moins de financement public... On va forcément se... Parce que le théâtre ne s'arrêtera jamais, je pense pas. Je pense qu'il y aura toujours du théâtre, il y aura toujours des expressions artistiques, en tout cas. Donc, on les fera différemment et puis on ira chercher des soutiens là où il y en a. Alors, je ne sais pas si, après nous, la Syrie Archimbault renouvellera cette expérience, peut-être avec la compagnie, peut-être avec d'autres structures, je ne sais pas. Mais ça sera à eux de faire leur choix. Mais en tout cas... oui, nous, c'est des choses... par exemple, nous, sur la prochaine création, alors pas celle-là, presque égale, mais qui sera certainement un seul en scène, on va réfléchir, pareil, à créer d'autres espaces aussi. Voilà, où ça sera certainement un spectacle tout-terrain, dans le sens où il pourra aller être joué chez l'habitant, dans les jardins, voilà, qui sera une forme plus intimiste. Mais voilà, toujours pareil, dans cette même démarche de démocratisation, en fait, on va dire. Voilà, c'est un peu un gros mot, mais ça veut dire ça, en fait.
Lydie parlait tout à l'heure de démarche politique, c'est même une démarche militante et résistante, finalement.
Oui.
Oui, c'est une question de survie, on en est là, ouais, mais clairement. Mais oui.
Vous donnez donc rendez-vous au public, donc les 22 et 23 septembre à 19h, à la Syrie Archimbault. Pour les réservations, toutes les infos sont sur votre site?
Oui, toutes les infos sont sur le site. Il y a une billetterie en ligne via Hello Asso, mais tout est fléché. Voilà, vous ne pouvez pas vous perdre en allant sur le site de la compagnie. Et venez, parce qu'il reste encore des places sur le 23. Et vraiment, moi, je vous garantis un bon moment. Ça va être vraiment chouette.
Voilà. Et puis, c'est l'occasion de soutenir aussi la culture et la création.
Aussi.
Et du coup, voilà, les gens vont vous soutenir.
C'est politique, mais c'est drôle. Et poétique.
Oui, c'est un spectacle loufoque en plus.
Oui, parce que tout ça est fait... Brecht, il a une expression fabuleuse par rapport à ça. Il dit « Dansons sur le malheur du monde ». Mais c'est vraiment ça. On parle de tout ça, on le côtoie tous les jours, hein, tout ça, tout ce qu'on a évoqué là. Mais tout ça est fait dans la bonne humeur, la joie, l'énergie. On est 4 comédiens, on joue 23 personnages. Donc en fait, ça fuse. Il y a une... Oui, puis on rigole. On rigole de tout ça. Voilà.
Marie, Lydie, merci beaucoup.
De rien.
Merci à vous.
Et bon spectacle.
Oui, merci. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.